Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, merci d'être avec nous. 20h45, Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre avec les drôles de dames. On parlait du calendrier infernal, des rythmes accélérés. On le disait tout à l'heure, 13 matchs, vous disiez, Paulo, en combien de temps
pour l'Allemagne, oui, pour les équipes européennes qui sont encore qualifiées pour la Coupe d'Allemagne, ça va être 13 matchs en 6 semaines.
Alors c'est intéressant parce que le syndicat international des joueurs, la FIFPro, avait alerté déjà en mai dernier. On connaissait déjà le calendrier infernal qui allait venir avec ce mondial en plein hiver, avec une enquête à l'appui intitulée Nous sommes des athlètes, pas des machines. Dans l'enquête, il ressortait notamment que 41% des joueurs ont déjà enchaîné au moins une fois 10 matchs d'affilée sans jamais avoir plus de 4 jours de repos entre deux rencontres depuis 2018. Ce calendrier qui a tendance à s'intensifier année après année, on peut en parler, hein, avec une guerre entre deux institutions, deux instances, oui. L'UEFA et la FIFA, qui chacun va organiser des compétitions, propose chaque année toujours de nouvelles moutures, de nouveaux formats.
C'est simple, l'UEFA qui crée la Conference League et la FIFA qui veut créer le Mondial des clubs.
Bon, à l'arrivée, l'équipe de France, on en a parlé hier soir dans l'after, hein, 15 joueurs absents du groupe bleu pour la fin des nations. Chez toi en Allemagne, c'est le cas aussi, mon cher Polo. Beaucoup d'absents.
Non, pas trop. Il y a eu le cas des Covid, il y a eu pas le Covid. Il y a eu des petits blessés, des petites choses comme ça, mais il y a pas de grands absents dans le 11 de départ. Mais en fait, c'est plus les autres sélections. Par exemple, Leverkusen va avoir à la rentrée un calendrier démentiel, et notamment à la fin de semaine, ils vont au Bayern. Patrick Schick est touché. Donc voilà, c'est des choses. C'est super important quand tu perds ton neuf. Qui t'a mis 24 buts l'année dernière dans le championnat. Donc ça, c'est compliqué, c'est des petites choses comme ça. Mais moi, le vrai problème, ça s'appelle le calendrier. On peut après être d'accord sur le modus operandi des compétitions, le pourquoi, le comment, le ceci, mais il y a une question de calendrier. Il faut aussi réfléchir au climat. Quand je dis au climat, c'est le temps qu'il fait. Moi, je ne veux pas avoir de match en hiver, en novembre, décembre, janvier. Je veux dire, au vélo, ils arrêtent pendant quasiment 3 mois. Et ben, pourquoi est-ce qu'au foot, on ne ferait pas la même chose?
En Allemagne, ils arrêtent.
Oui, mais là, ils arrêtent. En plus, ils vont faire une vraie longue trêve. Et j'ai presque l'impression d'être revenu dans les années 80, tu vois. Mais ils arrêtaient de moins en moins. C'est-à-dire que vu ce qu'on peut faire avec aujourd'hui dans les stades, au niveau des entraînements, vu qu'on peut se déplacer un peu partout, etc., la trêve, elle était limitée de plus en plus à 5 semaines. Mais c'était pendant la période du Covid, c'était ridicule parce qu'on se mettait à jouer en janvier où il y avait de la neige de partout. Puis encore une fois, on n'est pas à Alicante, quoi.
Mais quelles sont les solutions finalement? Enfin, je veux bien, mais qui va un jour, à part la FIFPro, hein, qui se fait entendre, pas du tout, personne réagit.
Mais non, parce que les joueurs gagnent plus d'argent par la FIFPro. Mais même les joueurs, ils se plaignent. Mais la multiplication des compétitions font que les gars, enfin, je veux dire, le budget global du foot est plus élevé, et eux gagnent plus d'argent. Je veux dire, les salaires aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y a 20 ans, mais ça n'a plus rien à voir. Donc les joueurs participent avec l'inflation salariale, participent à ça aussi.
Renaud est avec nous, 32-16, il va en parler justement. Salut Renaud.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toute l'équipe, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Et
salut,
bonsoir
Renaud.
À l'excellent Frédéric Hermel, le meilleur Français expatrié en Espagne, et à Paulo Breitner évidemment aussi.
Expatrié mais rapatrié en France quand même, hein, il faut être très honnête.
Voilà, exactement.
D'accord.
Ouais, mais tu sais, celui qui aura fait 30 ans d'Espagne comme moi, qui me piquait la place, qui vienne. Hein. 30 ans d'Espagne, il faut présenter sur le CV.
J'ai des candidats quand même, t'inquiète pas, tous les soirs j'en sais des lettres.
Ah ben je sais, mais qui passe 30 ans d'Espagne avant. Il y en a qui ont essayé,
Renaud.
Ils ont eu des problèmes.
Oui. On donne la parole, tu voulais parler notamment du football de sélection.
Un débat absolument passionnant, là je suis absolument d'accord avec nos deux drôles de dames. Entre guillemets, je pense que le football de club pour moi, hein, et c'est peut-être parce que je suis un peu vieux, hein, j'ai 51 ans, je trouve que le football de club depuis 30 ans ou 40 ans a pris vraiment trop de place par rapport au football de sélection. Alors je sais pas à quoi c'est dû, bon, effectivement il y a l'argent, là, ce que vous venez de dire c'est vraiment extrêmement pertinent et c'est tout à fait juste. Il y a vraiment ce problème-là. Je trouve qu'il y a trop de compétition de clubs. Je pense que la réforme de la Ligue des Champions, ça a fini par tout achever. La Conférence Europa, Ligue Europa, pour moi, ça ne sert absolument à rien. Surtout pour les clubs français qui prennent quand même des pilules, hein, parenthèse fermée. Et moi, je n'étais pas contre la Ligue des Nations parce qu'on se plaignait à juste titre qu'il y avait des matchs amicaux qui n'avaient aucun intérêt. Donc moi, j'ai pas été totalement contre. Bien au contraire, quand la Ligue des Nations a été créée, ça permettait de faire des matchs avec un intérêt en termes de compétition. Il y a quelques mois de ça, vous vous souvenez, Arsène Wenger avait proposé une Coupe du Monde tous les deux ans. J'ai trouvé ça totalement ridicule, parce qu'il faut que la Coupe du Monde reste quelque chose de rare.
Oui.
Parce que quand il y a de la rareté, et
bah,
c'est là où vous allez susciter du désir et de l'envie.
Bah, oui.
La Coupe du Monde, ça doit rester un événement, ça ne peut pas être biannuel. Donc moi, je suis très attaché à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et quand on aime vraiment le football, eh bien, on s'intéresse aussi en même temps aux petites nations. Parce que je sais qu'il y a des gens chez vous sur RMC, je pense à Kevin Diaz qui aime beaucoup le championnat néerlandais, qui est beaucoup moins médiatique que les autres gros championnats. Mais on a besoin de gens comme ça, des gens qui sont passionnés. Je pense à Nicolas Kougou de nos amis de l'Union opposée, etc., qui parlent d'autres footballs. Et moi, je trouve ça intéressant. Et je suis désolé, quand on aime le football, ben, on va vouloir regarder la Coupe du Monde, on va vouloir tout regarder, on va vouloir regarder toutes les équipes. Et parfois, on peut aussi avoir des surprises. Vous l'évoquiez à juste titre, la Hongrie, qui n'est pas vraiment une surprise, parce qu'effectivement, comme le disait Polo tout à l'heure, elle a quand même fait une Ligue des Nations, elle a joué quand même des matchs, elle a plutôt été tout à fait estimable. Mais voilà, c'est intéressant, on voit la Hongrie qui, par exemple, qui bat l'Allemagne, etc., etc. En Ligue des Champions, vous n'avez pas de surprise. Vous ne verrez pas un jour l'Atalanta Bergame gagner la Ligue des Champions, parce qu'il faut que ce soit toujours les mêmes, les gros. Mais à la fin, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un risque de lassitude, parce que voir un sempiternel Barça-Bayern, moi je comprends.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Il nous dit oui, mais c'est le football spectacle, c'est les meilleurs joueurs, mais parfois, je suis désolé, moi la finale de Ligue des Champions, bah, je mets de côté les événements qui ont eu lieu au Stade de France, mais ce Liverpool-Real Madrid ne va pas rester dans la légende de la Ligue des Champions. C'est pas le Milan-Liverpool de 2005, vous voyez ce que je veux dire. Donc à chaque fois, on nous vend du rêve, des produits avec les meilleurs joueurs, et puis effectivement, l'augmentation du nombre de matchs entre les championnats, les coupes européennes, etc., etc., les joueurs sont vidés, ils sont fatigués, et moi je suis désolé, mais pour moi, il n'y a rien de plus beau que de jouer pour son équipe nationale. Donc voilà ce que je voulais dire. Et après, je suis peut-être un petit peu minoritaire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de génération, les jeunes, par exemple, on entend combien de fois on entend des auditeurs qui passent sur RMC ou même ailleurs qui vous disent voilà, moi j'habite à Brest ou à Lille, oui. Et je suis un supporter de la Juve, je suis un supporter de Manchester City. Voilà. Bon, après voilà, effectivement,
de mondialisation du football également.
Bah nous les Drôles de Dames, on a fait beaucoup de mal, parce qu'on a fait découvrir les championnats, des équipes.
C'est pas que du mal.
Il faut vraiment défendre le football. Le football de sélection, parce que c'est aussi des moments magiques, quoi.
Mais c'est une réaction.
Voilà.
Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Renaud sur la rareté. Le problème, c'est que avant, on attendait un gros match, on connaissait le calendrier par cœur, etc. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus regarder au-delà d'une semaine, parce qu'il y a tellement de matchs à retenir, en fait, que la mémoire ne peut pas retenir tous les matchs qu'il y a. Donc oui, il y a trop de matchs, et ça. De toute façon, c'est pas avant. On n'imaginait pas jouer le lundi soir. Maintenant, tous les championnats ont un match le lundi soir. Bah, franchement, il y a quoi? Il y a 10 ans, on jouait pas le lundi soir.
Dites-vous qu'il y aura encore plus de matchs, pas en 2024 et la réforme avec des champions.
Bien sûr. Non, mais le lundi avant, les gars, avant, vous aviez des matchs le lundi soir il y a 10 ans?
Moi, j'ai jamais eu de match de l'histoire. Ils ont été supprimés en Allemagne parce que les supporters le voulaient pas.
Mais ils ont raison.
Vas-y,
Julien.
Non, juste parce que la Première Ligue a fait une offre à la Football League, et donc qui représente les championnats de 2e division, 3e division, 4e division professionnelle ici, en disant voilà, on va vous donner 200 millions d'euros par saison, mais on veut plus de la Coupe de l'Europe. On veut plus de replay, donc les matchs lui en Coupe d'Angleterre. Donc quand il y a un match nul, bah vous, au lieu d'aller au penalty, vous refaites un match 3 jours plus tard ou une semaine plus tard sur le terrain de l'équipe visiteuse, quoi. Donc ça, on oublie. Et puis en Coupe de la Ligue, parce que nous on a encore la Coupe de la Ligue malheureusement, et ben on peut décider de faire jouer notre équipe des moins de 21 ans, par exemple. On n'est pas obligé de faire jouer notre équipe A, mais en contrepartie on vous donne de l'argent parce que par rapport au manque à gagner du fait que les gros clubs, notamment en Coupe d'Europe, ne mettront pas leurs superstars, parce que nous on en a marre, il y a trop de matchs, on veut plus jouer ces matchs d'appui en Coupe d'Angleterre, on trouve ça ridicule, la Coupe de la Ligue on trouve ça ridicule aussi, et donc voilà. Et je trouve que finalement peut-être que c'est l'argent aussi qui peut résoudre un peu une partie du problème.
Intéressant, ils utilisent le calendrier surchargé pour redistribuer de l'argent.
Pas, parce que c'est vrai que le match replay, c'est un truc de fou quand même, qu'il n'y ait pas de pénalty.
C'est encore une aberration.
Polo. Complètement.
Alors moi, je suis un adversaire de la Super League, mais je suis pas un adversaire de la concentration dans le monde du football, parce que comme je viens du monde de l'entreprise, il y a un truc qui s'appelle la taille critique. Ça veut dire quoi la taille critique? C'est que on a aujourd'hui, je crois, 55 associations à l'UEFA. Or, sur ces 55 associations, si tu prends les 10 plus gros pays en termes de population, tu as déjà 80% de la population européenne. C'est-à-dire qu'en fait, ce que disait Renaud était très intéressant sur les petits pays, les ceci, cela. Mais sauf que tu ne peux pas avoir une véritable concurrence si tu es trois. Il y a un cas particulier, un contre-exemple extraordinaire qui est la Croatie. Mais c'est la Croatie, c'est, je sais plus, c'est quelques millions d'habitants, alors que l'Allemagne, c'est 83. Donc tu ne peux pas être compétitif systématiquement. Par exemple, un UEFA 24, pour moi, c'est une absurdité parce que ça tue les qualifications. Ça tue complètement les qualifications, parce que quasiment, y compris les équipes qui peuvent être surprises dans un euro, vont se qualifier, et donc finalement, il n'y a plus de vraies qualifications qui sont intéressantes à voir. Il suffit de voir toutes les grosses nations. Quand on perd contre la Macédoine du Nord, c'est la fin des haricots, mais c'est surtout un contre-exemple qui arrive une fois tout. Sur les dernières qualifications européennes, sur les 10 dernières années, je me suis jamais autant enquiquiné avec l'équipe d'Allemagne. Pourtant, l'Allemagne, elle est juste devenue championne du monde en 2014, elle n'a pas tout raflé. Donc, il y a un vrai problème de réflexion à ce niveau-là, c'est-à-dire que combien de clubs ou combien d'équipes doivent aller dans des grandes compétitions et non pas partir dans le gigantisme qu'on fait en ce moment, parce que en fait tu transfères un problème avant. Alors je suis comme Fred, dans les années 70, les qualifications, surtout quand on était la France et on n'était pas encore champion du monde, on sait ce que ça veut dire aller se balader dans les anciens pays de l'Est et ça, et perdre des matchs, etc.
C'était merveilleux.
Mais c'était merveilleux, mais parce on flippait.
En France, de Michel Platini contre la Yougoslavie.
Et par exemple, on flippait dans tous les sens. Oui. Mais au moins, au-delà du cas français, les qualifications voulaient dire quelque chose. Aujourd'hui,
mais les qualifications, c'était une compétition en elle-même.
Exactement.
Bien sûr.
Aujourd'hui,
match.
Aujourd'hui, c'est comme si tu refaisais ton passeport ou ta carte d'identité, quoi.
Oui, l'Allemagne, ok, bon, les qualifications. Oui, voilà.
Oui, mais c'est un cas particulier. Mais entre temps, ils ont gagné l'euro. Donc, c'est une vraie réflexion à mener sur la taille qu'on veut avoir dans les championnats européens. Moi, je pense que 16, c'est un grand maximum, et non pas 24. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'encore une fois, on tue les qualifications complètement, et après, on se plaint que l'Allemagne doit aller je sais pas où pour jouer un match, il gagne 5-0, et il y a toujours un mec qui nous dit: ah oui, mais nous, on est en train d'apprendre. Mon gars, ouais, c'est vrai, il y a 40 ans, tu t'en prenais 8, là, tu t'en prends plus.
Écoute,
5. Ça va.
Au mondial suivant, on va tuer également la phase de groupe du mondial.
Exactement.
Les meilleurs troisièmes pourront basculer dans la phase suivante. Je veux remercier Renaud d'avoir fait le 32-16. Merci, Renaud.
Merci, Renaud. Merci, Renaud. Merci, Renaud. Merci, l'équipe est très, très bonne fin de soirée à vous et très très bonne émission, et puis merci à vous, c'est vous qui êtes les meilleurs sur le football, toute radio confondue.
Merci Renaud.
Et aussi, on peut le dire,
on prend avec plaisir. Bonne soirée à toi, Renaud. Dans un instant, les gars, le mondial au Qatar, on va en parler. Bon, beaucoup de débats, vous le suivez aussi, puisque vous êtes tous français autour de la table dans notre pays. La ministre des Sports en a parlé également ce week-end. La fédération a répondu à un communiqué d'Amnesty International. Et chez vous, comment ça se passe? Est-ce un débat brûlant également? On va en débattre dans Génération After, spécial Drôle de Dame sur RMC. 20h57, on revient dans quelques minutes. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.